Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans LP de Nuit. LP de Nuit, c'est la référence à écouter pour être au plus proche du lycée. Vous retrouverez ici nos internes et leurs chroniques pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Et n'hésitez pas à nous retrouver en ligne sur le site de Delta FM ou bien sur notre page YouTube. Et pour cette première édition, le studio est bien rempli puisque nous avons Néo Antoine, nos musiciens en herbe qui vont nous parler de la création d'albums en home studio. Salut les gars.
Salut, bien bonsoir.
Mais on a aussi Gabriel et ses plans du LP2I. Hello Gabriel.
Bonsoir.
Les infos culturelles sur le Deter Fight ce soir avec Chloé.
Et bonsoir.
Une pause musicale avec Marius sur l'actu du rap du moment qui arrive juste après. Ensuite, on s'envole pour les étoiles avec Léandro pour parler des étoiles filantes et des alignements planétaires.
Bonsoir.
Et enfin, nous terminerons par notre point cœur, point love avec Ariane.
Bonsoir à tous.
Maintenant que je vous ai présenté notre équipe de chroniqueurs pro, il est l'heure de lancer le générique, maestro. Bonjour à toutes et bonjour à tous dans le studio.
Bonsoir.
Hey,
bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Je suis ravie de toutes et tous vous avoir autour de cette table pour notre première émission de LP de nuit. Et je suis certaine qu'il en est de même pour nos auditeurs et auditrices. Alors, pas trop le trac ? Ça
non,
va ?
Ça va, tranquille.
Bon, et bah alors il est l'heure de monter sur scène et de taper du pied avec Néo et Antoine.
Bienvenue dans notre chronique dédiée aux musiciens, au métal, en fait au monde de la musique en général. Aujourd'hui, on va interroger un thème qui nous questionne tous en tant que musiciens : comment s'autoproduire ? Alors, dans un premier temps, on va aborder quelques albums de nos connaissances qui sont autoproduits. Du coup, on a des expériences, des petites anecdotes, etc. On verra le matos et le coût, parce que s'autoproduire, ça a un prix. Ensuite, les conditions pour s'enregistrer chez soi. Et le mastering, le mixage. Et enfin, une fois qu'on s'est autoproduit, il faut faire la distribution. Et donc partir en tournée. Et donc qu'est-ce que ça implique ? Voilà, donc en abordant tous ces thèmes, on va les aborder ensemble. Néo, du coup ?
Bien évidemment.
Du coup, pour commencer, toi Néo, t'as ton oncle qui participe à un groupe qui s'est autoproduit ?
Oui, bien sûr. Le groupe Anima, donc groupe qui a sorti son premier EP en avril 2024. Donc si c'est un groupe de death metal, donc de Poitiers. Si certains sont intéressés, ils font des concerts assez régulièrement dans les bars et ont sorti leur EP sur les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube.
Ok. Pour ma part, j'ai un pote à moi qui habite en Angleterre, du coup, qui a sorti son premier EP. C'est Desolation. On va écouter tout de suite. Voilà, comme on peut entendre, on a énormément de blast beats. C'est super bien enregistré, il y a une qualité sonore qui est incroyable. Pourtant, c'est autoproduit, c'est enregistré en home studio. Et donc, on peut se demander comment ils font tout ça. Et combien ça coûte surtout. Donc, le premier point, le prix. Néo, est-ce que tu peux nous faire les comptes ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir que déjà, il est très important d'avoir, premièrement, une carte son ou une console de mixage qu'on va trouver en général autour des 600 euros. Voilà, c'est un élément très important pour l'enregistrement. Il faut également très souvent des plugins et logiciels de traitement qui sont d'une valeur de 300, voire on peut monter jusqu'à 1200 euros.
On peut se voir refuser des contrats par contre, si on craque ces logiciels et si on utilise des versions qui ne sont pas payantes. Voilà. Tout allant avec ça, il faut aussi du monitoring, des enceintes pour entendre ce qu'on produit. Donc ça a un coût variable entre 150 et 500 euros. Et enfin, il faut compter des accessoires annexes, tout ce qui est ampli, guitare pour les musiciens, tout ce qui est micro, les casques, les pédales à effet, etc., etc. Et donc ça, c'est à environ 3000 euros. Donc en somme, pour enregistrer son propre projet, il faut compter entre 4550 euros et 5350. Cette somme, elle peut varier. On peut utiliser, comme je l'ai dit, des techniques annexes, donc avec des plugins qui ne sont pas très légales ou qui ne sortent pas directement du constructeur. Et utiliser du matos d'occasion. Je sais qu'il y a des consoles SSL qui sont très réputées, qui sont disponibles en occasion et, ou en location carrément. Voilà. Et pas d'inquiétude, c'est juste une brève exagération pour le prix et c'est seulement un ordre d'idée. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, l'enregistrement en home studio. Donc comme on a écouté tout à l'heure, Grave Dancer est enregistré en home studio. Qu'est-ce que ça implique? Donc déjà, l'installation d'un home studio, ça prend de la place et qu'il y en a certains qui s'en sortent entre 3 bureaux et 2 chaises. Il faut noter que tout le matériel doit avoir son espace. Il faut avoir une préférence, il faut avoir une pièce dédiée de préférence avec une acoustique qui est saine, on dit. Donc c'est-à-dire une pièce qui ne va pas avoir trop de réverbération, des murs qui ne vont pas absorber complètement les fréquences basses ou alors qui vont complètement les rejeter et on va se retrouver avec une pièce qui bourdonne énormément. Voilà. Donc c'est une pièce acoustiquement neutre et ça, c'est extrêmement recherché. Donc pour les gens qui sont en appartement, par exemple, pour les gens qui sont en maison, dans des très vieilles maisons avec des murs un petit peu insalubres et du coup bah, ça fait que le son est complètement déformé, donc quand on s'enregistre il n'y a pas de souci, le son est bien sur le logiciel. Par contre quand on va l'écouter avec les enceintes de monitoring, ça va plus du tout être pareil et là ça va complètement fausser le mixage en fait. Donc voilà, un espace dédié c'est primordial et il y a un aspect aussi, bah, quand on est en home studio on est chez soi et il y a un aspect qui rentre en compte. Néo, est-ce que tu veux nous en parler?
Bah, la charge mentale qui est assez élevée pour le musicien souvent, parce que souvent c'est quelque chose qui est pratiqué entre deux boulots pour essayer de générer un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins, donc que ce soit alimentaire, vitaux tout simplement. Donc oui, il faut savoir que la charge mentale du musicien elle est trop oubliée. On compte beaucoup de cas de dépression pendant la production ou l'enregistrement d'un projet, que ce soit album, EP ou autre, parce que la précarité impose ses lois et c'est extrêmement difficile d'arriver à être créatif en cumulant des boulots alimentaires. Et de nombreux projets ne voient jamais le jour ou au bout de beaucoup de temps. Et quelque chose qui est assez compliqué, une charge mentale qui est assez lourde. Et certains n'en sont pas forcément capables de le tenir.
Par exemple, pour Gojira, donc Joe Duplantier, c'est un album pour leur tout premier album, Terra Incognita. Joe Duplantier disait qu'ils avaient mis 7 ans à l'écrire. Voilà. Et aujourd'hui, ils sortent un album tous les 4 ans. Donc ça montre un peu l'ordre d'idée. Donc quand on est en s'autoproduit, le temps que ça prend comparé à un temps en studio. On va passer ensuite sur le troisième thème, du coup, qui concerne, donc une fois qu'on s'est enregistré, le mastering et le mixage. C'est un thème extrêmement complexe qu'on peut aborder avec des professionnels, mais qu'on peut aussi faire soi, voilà, donc à l'aide de logiciels, bien sûr. Donc c'est des simulations, les logiciels qu'on utilise. Ça peut être des simulations de consoles, des simulations d'amplificateurs ou même des simulations de micros. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs marques disponibles, Universal Audio, SSL. Et en gros, il faut, en matériel analogique, une bonne console qui peut permettre de gérer les différentes pistes ou bus. Et ensuite, ça peut varier, mais on conseille aussi un compresseur et une table de mixage en analogique pour pouvoir avoir, je sais pas, moi je sais qu'il y en a qui aiment avoir les boutons en vrai et pas toucher sur un plugin parce que le son est altéré quand on télécharge la musique ensuite. Donc après, c'est plus au niveau des préférences, il faut essayer, mais on peut s'auto-former aussi beaucoup grâce à YouTube, mais c'est assez complexe. Donc comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi faire appel aux professionnels, des professionnels qu'on peut payer pour ça, pour le mastering et le mixage. On peut les envoyer directement, donc nos enregistrements, à un ingé son, et lui il s'occupe du mix. Par exemple, il y a plusieurs sites qui proposent ça et qui prônent en même temps l'auto-formation. Bon, c'est un peu contradictoire, mais voilà. On a Audiofanzine, Project Home Studio et l'Académie du Gros Son. L'Académie du Gros Son qui font énormément de vidéos sur YouTube avec des interviews d'ingé son, etc. Donc c'est pas mal inspirant. On a aussi, sur YouTube, j'en profite pour dire, on a aussi des gens qui travaillent dans le milieu du son et qui sont là pour nous montrer comment on fait, par exemple, pour devenir professionnel, pour passer pro. Donc un groupe qui part en tournée, donc qui passe pro. On a le drum tech de Falling in Reverse, Matt Horn, qui nous montre les coulisses de la régie, par exemple, d'une scène. Et dans tous les cas, s'il y a quelques problèmes que ce soit, YouTube aura la solution et vous pouvez vous auto-former sur YouTube. Ensuite, on va attaquer le quatrième thème. Donc, Néo, est-ce que tu peux nous présenter comment ça se passe, la distribution, et une fois qu'on a imprimé l'album?
Alors déjà, pour la distribution d'un album, ça passe déjà par l'impression des CD, faire graver des CD. qui est un petit peu l'origine. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être couverture, pochette d'album, etc., qui sont des choses assez essentielles pour donner envie à l'achat. Et la communication aussi, qui est assez importante, en faire parler, que ce soit voilà, sur les réseaux sociaux, de bouche à oreille, c'est des points qui sont assez essentiels pour la communication, que voilà, des gens soient au courant que ces groupes, ces albums existent, et donner envie à ceux-là de écouter, voir, en parler autour d'eux également.
Au début, on parlait de Desolation, par exemple. Desolation, c'est un groupe de musique qui a commencé à faire de la musique en 2019 avec leur premier EP. Et maintenant, aujourd'hui, ils jouaient devant des salles complètement vides. Aujourd'hui, ils arrivent à remplir des 1000, 2000 personnes facilement. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut se dire, en fait. C'est la persévérance, c'est les tournées, c'est les concerts, c'est le fait de se produire, d'avoir une bonne com, surtout. En fait, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense notamment à la communauté hardcore qui est pas mal là-dedans parce qu'eux ils ont une com incroyable à chaque fois, donc c'est 4 assos qui viennent pour filmer, il y a 2 assos qui s'occupent du son, etc. Et à chaque fois on retrouve les lives, quel que soit le groupe, par exemple des salles de spectacle. Par exemple, je sais à Tours, il y a une salle qui s'appelle Le Temps Machine et il y a une assos dédiée qui s'appelle Violent Motion sur YouTube, vous pouvez retrouver, qui filme chaque concert de Metal Hardcore que vous pouvez retrouver, du coup. Et c'est vrai que c'est pas mal, du coup, pour la com des groupes et de la salle de spectacle qui pourra avoir de plus en plus de gros groupes. Voilà. Faut aussi pas hésiter à démarcher pour la distribution les producteurs, les labels. Et encore une fois, faire des concerts, c'est primordial. J'espère que cette petite... ce petit podcast vous aura plu et on va ensuite passer à la suite.
Merci beaucoup les gars. J'espère que ça aura motivé certains de nos auditeurs ou auditrices à faire de même. J'en profite, Marius, je crois que tu as sorti ton EP il n'y a pas longtemps. Toi, tu l'as fait en home studio ou pas du tout ?
Ouais, non, moi je l'ai fait en studio en effet. Et je me souviens que j'avais rec sur Bordeaux. Et je suis assez fier de ça. Et il est actuellement disponible sur SoundCloud. Donc n'hésitez pas à aller streamer.
Voilà, on profite de faire un peu de pub pour les copains. Merci beaucoup encore une fois, les gars. Et j'espère en tout cas que le bâtiment du jour que nous présente Gabriel résistera aux ondes de vos amplis, puisqu'on passe tout de suite à toi, Gabriel, et ta revue Archie.
Ben, merci beaucoup et merci les gars pour cette chronique très intéressante. J'ai découvert beaucoup de choses. Donc moi, je vais vous parler d'architecture. Donc chaque lundi soir, je vais vous emmener dans le monde fascinant de l'architecture. On aura des interviews d'architectes, on aura aussi des quiz et des anecdotes historiques. Donc ce soir, c'est pour la première chronique, je vais parler de notre lycée, donc du LP2I. Alors il faut imaginer en 1987 que le Futuroscope vient d'ouvrir. Donc on a tout le monde qui est en ébullition par rapport aux nouvelles technologies, à l'innovation, etc. Et c'est dans ce contexte que notre lycée a été conçu, comme un peu un lycée pédagogique dans le numérique, dans l'innovation. Et donc ça a été conçu par François-Xavier Désert et l'agence d'architecture Studio, qui ont relevé le défi de créer un bâtiment avant-gardiste qui reflète un peu aussi l'esprit du Futuroscope. Donc le LP2I, ça ressemble à quoi ? Ben, ça ressemble à un delta. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est un triangle en fait vu du dessus. Cette forme a inspiré aussi bien sûr le nom de notre radio, qui s'appelle Delta FM. Certains y voient des fois une guitare électrique dans notre lycée avec cette forme de triangle qui peut faire penser au cœur d'une guitare électrique. Mais certains d'autres en voient encore des symboles Illuminati, d'autres triangles, etc. Donc il faut faire travailler un peu son imagination. Même s'il y avait une idée de départ, une volonté de l'architecte, au final c'est les élèves qui se sont approprié la forme du lycée. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de plus sur la forme du lycée? Eh bien, pour que vous ayez une image un peu plus claire, il faut savoir que malgré tout, on a ce triangle, mais on a un creux au centre, un rond, qui est comme une cour centrale dans laquelle les élèves vont pouvoir venir se reposer. Et dans cette cour, du coup, par-dessus, on a donc une... je cherche comment vous le montrer.
Comme un grand trait, finalement, ouais, grand trait, qui parcourt ouais, merci, de, la pointe, ouais. De la pointe au centre du triangle.
Exactement. Merci. Et donc ce grand trait, c'est ce qui permet de refermer justement le socle sur la cour centrale. Parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de vent ici dans cet établissement. Et donc du coup, ça nous permet de un peu protéger cette cour centrale. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation, c'est pas seulement dans la forme qui est assez particulière, c'est aussi dans le bâtiment en lui-même. Il faut savoir qu'on a des poutres en béton armé avec des armatures en fer à l'intérieur qui sont très solides, qui permettent à un bâtiment de tenir avec 4 étages. Et donc, c'était assez innovant pour l'époque, même si c'est une technique qui est plutôt répandue aujourd'hui. il y a aussi, aussi l'idée d'avoir des espaces avec des communications de chaleur, parce qu'on sait que la chaleur monte dans une pièce. Et ben là, on a 4 étages, donc pour qu'il y ait une bonne communication, ce qui a été fait par l'architecte, c'est qu'il y a eu des ouvertures qui ont été créées, notamment au niveau de la cafétéria du lycée, avec un espace ouvert. En fait, la cafétéria se situe au 1er étage et on a une ouverture jusqu'au 4e étage, au plafond. Sauf que ce qui se passe en vrai, c'est que on pensait à la base à faire des températures plutôt tempérées pour avoir, par exemple, de la chaleur en hiver et un peu de fraîcheur en été. Il se trouve que dans la pratique, on se retrouve souvent avec des chaleurs un peu importantes, trop importantes en été, un peu de fraîcheur en hiver, voilà. Après, le bâtiment existe quand même depuis 87, je vous le rappelle. Donc, il faut savoir que notre lycée, du coup, est un excellent exemple d'architecture scolaire qui combine à la fois esthétique et innovation. Et aussi, il y a eu un concours du coup d'architectes pour la construction de ce lycée. Donc, comme je vous le disais, c'était François-Xavier Désert et l'agence Architecture Studio qui ont gagné ce concours et qui ont construit ce lycée. Mais à la base, il aurait pu y avoir d'autres projets. Par exemple, on a retrouvé des projets avec des ruches, par exemple, en forme d'hexagone, avec quelque chose de complètement différent. Donc, encore une fois, l'ULP2I est un bon exemple de projet public qui donne des innovations complètement incroyables. Mais avant de vous quitter, parce que je veux voir un peu si vous avez suivi ce que j'ai dit, je vais faire un petit quiz avec nos chroniqueurs présents ici. Voilà, avec les différentes questions par rapport à la chronique.
J'ai peur.
Donc, non, mais vous inquiétez pas, c'est plutôt logique. Donc, première question plutôt simple, en quelle année a été construit le lycée ?
1987.
Tain, un point pour Léandro. Bien joué.
Je fais les comptes, c'est ça ?
Ouais. Ensuite, deuxième question. Quelle est la lettre grecque qui correspond à la forme du lycée ?
Delta.
Delta. Voilà, tout le monde qui représente qui représente le D minuscule dans l'alphabet grec.
Bien, il cherche le point bonus.
Un demi-point pour...
Non.
Et donc, troisième question. Par quel architecte et quelle agence le LP2I a-t-il été conçu ?
Oula.
Xavier
Désert. Ouais.
C'est François-Xavier Désert, effectivement.
Bravo.
Effectivement, bravo. Voilà. Donc, c'était ma chronique avec une petite présentation du lycée et un petit quiz. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte d'un bâtiment.
Eh bien, merci beaucoup, Gabriel. Je pense que ça nous a toutes et tous permis de visualiser un peu différemment notre lycée. Franchement, trop stylé si ça avait été une ruche. J'aurais bien aimé voir ça. Et après ça, on revient dans le temps présent un peu avec Chloé et ses infos décalées. Bonjour Chloé.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique sur la culture. Ici, nous parlerons de l'actualité dans l'art, dans la musique, dans le cinéma, le théâtre et même sur YouTube. En bref, ce sera plutôt diversifié. Enfin bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui a eu lieu il y a un mois entre créateurs de contenu, le DTR Fight. Mais alors, le DTR Fight, c'est quoi ? Eh bien, c'est un combat de boxe créé et organisé par Billy, plus connu sous le nom de Rebeu DTR sur les réseaux sociaux, qui a été diffusé sur la chaîne Twitch du streamer. Pas moins de 10 personnalités de YouTube français se sont retrouvées le 7 décembre à Paris La Défense Arena pour une soirée exceptionnelle. Celles-ci sont montées sur le ring pour s'affronter dans des combats de boxe anglaises, tout cela supervisé par Brahim Asloum, ancien champion olympique et du monde, ainsi qu'avec la FF Box. Le moment fut animé par Inoxtag, Kameto, Amine et Ibra TV et a été sponsorisé par des marques comme Samsung, Crunchyroll, une plateforme de streaming pour les animés, même si personnellement au début j'ai cru que c'était une marque de chips, Wilkinson Sword, une marque de rasoir et pour finir Venom, une compagnie qui crée des vêtements d'arts martiaux. La soirée fut rythmée par 5 combats. Le premier a vu s'affronter 2 youtubeurs, Mastu et Jilsi. Ils furent suivis par Le Bouzeux et Prime, le cofondateur de la Carmine Corp. Ensuite, place à l'unique combat féminin de l'événement opposant Catsup à la youtubeuse Dooms. Puis pour finir, Browse et Billian se sont rencontrés pour un avant-dernier combat. Le point culminant de cette soirée a été le main event, opposant les deux combattants les plus importants, Billy et Grégory Bushlagem, alias Greg MMA. Ce dernier, figure emblématique des arts martiaux et pionnier du MMA en France, s'est fait connaître à travers ses vidéos pour le média spécialisé Karaté Bushido avant de développer ses propres plateformes. Énormément de débats ont eu lieu sur les réseaux sociaux pour savoir quel sera le gagnant de chaque combat. Certains sous-estimaient des participants ou au contraire surestimaient certains d'entre eux, mais ce sont finalement Mastu, Prime, Catsup, Browse et Greg MMA qui ont gagné leur combat. Voilà, voilà, c'était tout pour cette chronique. Si vous voulez plus vous informer sur le DTR Fight, je vous invite à regarder le documentaire de Mastu sur sa chaîne YouTube. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.
Merci beaucoup Chloé. Je dois avouer que je connaissais pas du tout le DTR Fight et tu l'as connu comment toi ?
Bah, en étant sur les réseaux sociaux, ils en parlaient beaucoup, surtout bah, donc Mastu, etc. Enfin, les youtubeurs qui y participaient, que je regarde. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Chloé pour ta chronique culture. Et puisqu'un peu de musique adoucit toujours les mœurs, je vous propose donc qu'on laisse notre producteur aux platines et qu'on écoute Marius. Salut Marius.
Bonjour, alors moi, comme vous venez de le dire, c'est Marius et ce soir j'aimerais vous parler d'un nouvel album de rap, enfin de deux nouveaux albums de rap, donc un qui vient de sortir de Ziak, puis un prochainement qui va bientôt sortir, mais on n'a pas encore de date, celui d'Impliqué 140. Alors cette chronique elle sera un petit peu rapide, mais je vais vous parler un petit peu de l'actualité. Donc ce rappeur assez connu, Impliqué 140, faut savoir qu'il est né le 24 avril 2001. C'est un rappeur français originaire de Clamart dans les Hauts-de-Seine, donc voilà, dans des coins un petit peu ghetto de Paris, on peut le dire. Et il a commencé sa carrière en 2019 avec une série de freestyle intitulée Bâtard. Et sa première mixtape, elle a eu beaucoup de succès. Donc, faut savoir aussi que ses textes, ils sont très crus. Donc, le personnage, il fait assez peur en soi. Enfin, quand on le voit, on n'a pas vraiment envie de lui demander un selfie. Mais c'est un des artistes les plus prometteurs, en tout cas, dans la scène de la drill. Et je pèse mes mots. Donc, il a fait une annonce sur Instagram de son nouvel album. Donc, on n'a pas encore de date, mais on sent que ça va être vraiment très méchant. Donc, pour le deuxième rappeur, vous le connaissez sans doute, c'est le célèbre rappeur Ziak. Donc, le rappeur anonyme avec plusieurs masques, toujours dans un style drill, qui vient de nous sortir son album le 14 décembre 2024. Et cette fois, on le voit avec un nouveau masque, donc tout droit sorti des bennes de la foire fouille, à mon avis. Mais on lui en veut pas. Et il envoie du lourd avec un feat en collaboration avec, attendez bien, le célèbre Kaaris. Donc ouais, le célèbre rappeur Kaaris. On peut dire que ça va lui permettre de remonter sa street cred après tous les tacles qu'il s'est pris sur les réseaux. En bref, Ziak qui nous a sorti un album assez méchant et Impliqué qui va bientôt éteindre la concu au sein de la scène française. Merci de m'avoir écouté, c'était le moment rap présenté par Marius.
Merci beaucoup Marius pour de nous avoir un peu présenté tes coups de cœur du moment. Pour Ziak, ça fait un moment que tu le suis, ce qu'il fait
Alors, pour être honnête, je le suivais beaucoup quand j'étais jeune. Mais voilà, depuis qu'il y a eu des petites polémiques avec lui, en vrai, niveau style de rap, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mm-hmm. Mais après, comme je parlais de sa street cred, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de un peu démonter l'image qu'il avait derrière ce masque. Et puis, on trouvait un petit... un petit gars qui n'était pas dans les affaires de tout ce qu'il parle dans ses textes, finalement. Donc après, voilà, prendre ou à laisser, on prend ou pas. Moi, personnellement, je dissocie l'homme de l'artiste, dans certains cas, bien évidemment.
Mais tu dissocies ouais. Les textes de la personne.
Aussi, ouais.
Très bien. Et du coup, il s'appelle comment ce dernier album ? J'en vois plusieurs. Est-ce que c'est Essonne History X ?
Ouais, exactement. C'est ça ? Essonne okay. History X qui est sorti le 14. Ouais.
Avec Rien ne se remplace ?
Exactement.
Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marius, pour ta chronique.
Eh bien, de rien.
Et pour cette prochaine chronique, chers auditeurs, chères auditrices, je vous propose de lever les yeux vers le ciel afin de plonger un peu plus dans le monde de Leandro, dans le monde des étoiles.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis Leandro et bienvenue dans les Récits du Cosmos, une chronique sur l'astronomie et tout ce qui l'entoure. Ce soir, nous aborderons deux sujets. Le premier sujet est les Géminides. Alors qu'est-ce que les Géminides ? Les Géminides sont une pluie d'étoiles filantes observable chaque année lors du mois de décembre. Et l'année dernière, c'était du vendredi 13 au samedi 14 décembre. Alors oui, elles sont déjà passées, mais ça ne nous empêche pas d'en parler quand même, en vous expliquant ce qu'est une étoile filante et à quoi c'est dû. Malgré leur nom, ce ne sont pas une étoile, mais des météoroïdes, de petites météorites pas plus grandes qu'un grain de sable provenant d'une comète ou d'un astéroïde. La lumière émise par les étoiles filantes n'est nulle autre que de la chaleur due au frottement entre l'atmosphère et les météoroïdes, car elles arrivent à une telle vitesse qu'avec les frottements, les étoiles vont se désintégrer en arrivant, créant ainsi une espèce de boule de feu et cette impression que ça ressemble à une étoile. D'ailleurs, il y a 3 puits d'étoiles filantes observables chaque année. Les Perséides, observables lors du mois d'août, les Léonides, lors du mois de novembre, et les Géminides, lors du mois de décembre. Et chacune de ces pluies est due à des comètes qui leur sont associées. La comète du Swift-Tuttle pour les Perséides, Tempest-Tuttle pour les Léonides, et sans oublier Phaéton pour les Géminides. Après les étoiles filantes, passons maintenant aux planètes et à l'événement qui va arriver. Ainsi, le deuxième sujet est l'alignement de 7 planètes du système solaire, et cette fois-ci, vous allez pouvoir y assister. En effet, cet événement se déroulera lors du mois de janvier, et plus exactement le 21 janvier 2025. Mais seulement 4 planètes seront facilement visibles à l'œil: Mars, Jupiter, Vénus et Saturne. La dernière fois que toutes les planètes se sont alignées était le 8 avril 2024. L'alignement planétaire était visible pendant l'ellipse solaire totale aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Malheureusement, pas en France. Et ce soir, je vais tout vous expliquer au sujet de cet alignement. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un alignement planétaire ? Pour avoir un alignement planétaire, il faut considérer au moins 3 planètes et considérer la Terre parmi ces planètes. Pour constater simplement un alignement planétaire avec la Terre, il suffit de voir 2 planètes ou plus se rassembler dans le ciel en un même point, ou du moins dans une zone du ciel restreinte. Bien entendu, si certaines planètes se trouvent derrière le Soleil, on aura aussi un alignement, mais ce sera bien moins spectaculaire car invisible. C'est évidemment très rare car les planètes ne se déplacent pas dans un même plan. Par exemple, l'alignement Terre-Vénus-Soleil donne lieu à des passages de Vénus devant le disque solaire. Cela n'arrive que 2 fois tous les 120 ans. Si on veut ajouter une planète dans ce balai, cela devient quasiment impossible. On peut évidemment considérer que les planètes ne sont pas des points mais des sphères et que l'alignement n'a pas besoin d'être exact pour exister. Les plans orbitaux des planètes sont relativement proches et on peut faire abstraction des inclinaisons respectives. Ainsi, on obtiendra beaucoup plus facilement un alignement Terre-Soleil avec une autre planète. Pour Vénus, cela arrive tous les 584 jours. C'est ce qu'on appelle une révolution synodique. Si on ne prend que les 2 planètes les plus grosses, Jupiter et Saturne, leur révolution synodique est d'environ 20 ans. Petit point culture, dans le film Hercule de Disney, l'alignement des planètes sert de compte à rebours pour l'exécution du plan d'Hadès, voulant libérer les titans et renverser Zeus à l'aide de ces derniers. Mais pas que chez Disney, dans le manga Senseiya, ou plus communément appelé les Chevaliers du Zodiaque, l'alignement des planètes est aussi un élément dramatique lors de la bataille contre Hadès. Tiens, encore celui-là. En effet, comme dans Hercule, cela nous montre l'urgence de la situation et une pression en cas d'échec, car cela détruirait le monde. En réalité, si ces 2 œuvres utilisent l'alignement des planètes comme symbole de compte à rebours et de pression scénaristique, c'est car les 2 s'inspirent de la mythologie grecque, où les planètes représentent les dieux, et donc l'alignement des planètes représente un ordre divin. Merci de m'avoir écouté, c'était Léandro, et à une prochaine pour plus de récits du cosmos.
Merci beaucoup Léandro, tu as réellement le don de nous faire voyager à travers l'univers et notre galaxie. Merci beaucoup pour ce petit moment de paix. Pour rester un peu sur notre nuage et au plus près des étoiles, on écoute Ariane et son astro-love de cette semaine, en espérant que tu nous annonces du beau temps pour cette année, Ariane.
Donc bonsoir à tous, moi c'est Ariane, l'astro-love, et ce soir je vais conclure cette émission avec quelques horoscopes basés sur les relations amoureuses. Je vais donc commencer avec les béliers. Pour les couples, la douceur pourra être perturbée par quelques remous émotionnels. Il s'agira de ne pas laisser les problèmes s'accumuler. Quant aux célibataires, le défi est de faire la différence entre une attraction profonde et un petit feu de paille. Chez les taureaux, les célibataires vous recherchez à traiter autrui d'une façon désintéressée et juste, mais peut-être pourriez-vous essayer d'être moins impersonnel. Pour les amoureux, vous vous sentez quelque peu étouffé par votre relation et êtes peu à peu en quête de liberté. Pour les gémeaux, c'est le moment de redécouvrir à deux les plaisirs simples de la routine. En solo, vous êtes tel un papillon dans un champ de fleurs. Vous ne savez plus où donner la tête. Concernant les cancers, en couple, méfiez-vous de votre tendance à vous laisser guider vos doutes affectifs, qui pourraient vous desservir. Pour les célibataires, vous désirez être au petit soin des autres et vos amitiés pourraient vous offrir quelques surprises. Pour les lions, l'heure est à la tendresse. Vous avez des accès de romantisme qui combleront votre partenaire. Quant aux célibataires, la configuration astrale actuelle encourage vivement la rencontre. Chez les Vierges, vos sentiments sont à leur paroxysme. En solo, vous semblez tout à fait prêt à de nouvelles rencontres. Et en couple, vous prenez pleinement conscience de l'importance que votre partenaire tient dans votre existence. Concernant les balances, et surtout pour les amoureux, si vous commencez à tourner en rond, il ne faut pas oublier que de temps à autre, la liberté personnelle est essentielle à l'harmonie conjugale. Pour les célibataires, avant de vous plonger dans les eaux inexplorées de l'amour, questionnez vos envies. Est-ce simplement de la curiosité ou cherchez-vous quelque chose de plus solide ? Scorpion, les astres vous jouent des tours en amour. Vous pourriez ressentir du désir et de l'attirance, mais pas forcément pour votre partenaire. Si vous n'aimez pas les complications, vous ferez bien de résister à la tentation et à l'appel d'une aventure. Célibataire, vous vous sentez à la fois sensuel et romantique. Vous serez d'humeur à tomber facilement amoureux. Votre charme pourrait opérer aujourd'hui et vous aurez de grandes chances de faire une rencontre. Concernant les Sagittaires, pour les amoureux, vous êtes plutôt cérébral, dans la manifestation de votre volupté y compris. Les célibataires pourraient avoir du mal à trouver des partenaires qui correspondent à leurs attentes. Soyez prêts à faire des compromis et patience, la situation va se décanter. Pour les Capricornes, de conflits émotionnels pourraient ressurgir, mais avec de la patience, de l'écoute et de l'empathie, vous parviendrez à les résoudre. Quant aux célibataires, profitez de sorties entre amis pour faire de nouvelles rencontres. Verseau, célibataire, vous avez besoin d'amitié autant que d'amour pour commencer une relation. Pour les amoureux aujourd'hui, exprimez votre affection sans retenue, ces petits gestes seront la voûte d'une harmonie renouvelée. Et je vais finir avec les poissons, la stabilité est au rendez-vous pour les couples, profitez de cette période pour renforcer vos liens et planifier l'avenir. Chez les amoureux aujourd'hui, exprimez votre affection sans retenue, ces petits gestes seront la voûte d'une harmonie renouvelée. Merci à tous, j'espère que certains d'entre vous se seront reconnus dans ces horoscopes et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup Ariane. Merci de nous avoir permis de visualiser un peu mieux cette année 2025 qui s'offre à nous, notamment grâce aux belles étoiles de Leandro. Et c'est donc sur cela que l'on se quitte, très chers auditeurs et très chères auditrices. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette première émission de LP de nuit. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site et sur la page YouTube de Delta FM. Merci à Antoine. Merci à Néo, merci à Gabriel, merci à Chloé, merci à Marius, merci à Leandro et merci à Ariane. Et on se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Delta FM 90.2. C'était Lola pour LP de nuit.